Europe 1. Écoutez le monde changer. 15h, 16h.
Sans rendez-vous sur Europe 1. Anne Le Gall.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Comment profiter de l'été pour se ressourcer, mieux bouger, mieux manger? Comment prendre soin de son corps et de son moral? Je suis ravie de vous accompagner jusqu'à 16h pour évoquer toutes ces questions. À mes côtés dans ce studio, on retrouve aussi le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Bonjour Damien.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous nous parlerez de sexologie un peu avant 16h et vous nous donnerez aussi des conseils de santé pratiques.
Oui, côté sexo, on se demandera en fin d'émission pourquoi il ne faut pas être trop fusionné dans son couple. Et puis, côté petit bobo de l'été, on va parler des piqûres d'insectes.
Et notre dossier du jour est aujourd'hui consacré aux aidants. Ils sont 11 millions en France. Ils accompagnent tous les jours un proche malade ou âgé. Ils ont été très mobilisés pendant la crise sanitaire. Et ce n'est pas simple pour eux de trouver un peu de répit. Deux expertes sont avec nous pour en parler. Et puis, comme tous les jours, à 15h40, nous avons rendez-vous avec un coach pour nous améliorer dans nos habitudes au quotidien. Aujourd'hui, c'est la coach sportive Véronique de Villèle qui partagera ses idées pour entretenir notre tonus et notre silhouette. Voilà pour le sommaire, c'est parti pour 100 rendez-vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h.
Anne Le Gall vous reçoit, 100 rendez-vous sur Europe 1.
Et l'on démarre comme tous les jours par quelques conseils pratiques pour cet été. Aujourd'hui, Damien Mascret, nous parlons des piqûres d'insectes.
Bah oui, parce que la nature, hein, qui nous a tant manqué pendant le confinement, c'est aussi les moustiques, les guêpes, les araignées.
Ils nous ont pas tant que ça manqué, mais la nature, oui.
Alors disons-le tout de suite, hein, la plupart du temps, c'est évidemment sans gravité, mais comme parfois, ça peut avoir des conséquences plus sérieuses. Hein, je pense évidemment à certaines piqûres de moustiques, puisque en principe, en France métropolitaine, c'est bénin, mais ça n'est pas forcément le cas dans les drom-toms, par exemple, hein, où le moustique tigre, par exemple, hein, peut transmettre des maladies comme la dengue, le chikungunya ou Zika, par exemple. Et puis bien sûr, dans certains pays, les moustiques peuvent aussi transmettre le paludisme. Et puis enfin, les piqûres de guêpes, d'abeilles, bref, tous les hyménoptères, et bien là, ça fait mal, même si c'est souvent bénin. Et ça peut quand même entraîner parfois des réactions allergiques, voire graves. Donc, la liste est longue.
Alors, commençons par les moustiques. Qu'est-ce qu'on fait en cas de piqûre?
Alors, la première chose, c'est que particulièrement pour les pays tropicaux où vous allez et où il y a du paludisme, il faut se renseigner avant, bien sûr, parce qu'il peut y avoir une prophylaxie, c'est-à-dire une préparation, un traitement préventif à prendre, d'ailleurs pendant et souvent aussi après, au retour, très important, il faut le continuer. Et puis, on peut aussi prendre des précautions quand on est sur place. Hein. Ce sont évidemment les répulsifs, ça c'est valable aussi d'ailleurs en France métropolitaine, bien sûr.
Les moustiquaires.
Voilà. Alors, les moustiquaires éventuellement imprégnés, ça aussi, ça peut être efficace. C'est même la seule chose qu'on peut vraiment utiliser pour les bébés, puisque vous savez que les répulsifs, on ne peut pas les mettre sur les bébés. Donc, moustiquaire avec répulsif, c'est très bien. Vous pouvez aussi utiliser, notamment, je pense aux fenêtres, bien sûr, des moustiquaires aux fenêtres, hein, si c'est possible. Et puis, des géraniums, par exemple, dont l'odeur déplaît aux moustiques. Ça, vous pouvez en mettre sur le rebord des fenêtres. Il y a aussi des huiles essentielles. Alors là aussi, attention, pas sur la peau, pas chez les enfants, pas chez les femmes enceintes, mais deux ou trois gouttes d'huile essentielle, ça peut aussi chasser la citronnelle, par exemple.
Et la citronnelle, voilà.
Ça peut chasser les moustiques.
Alors, à propos des moustiques, justement, on a une question de Delphine.
Alors chaque été, moi, je me fais bouffer par les moustiques. Je me retrouve avec des piqûres de moustiques qui me démangent vraiment. Est-ce que, par exemple, les bracelets pour anti-moustiques, est-ce que ça marche?
Ah oui, les bracelets en caoutchouc qu'on trouve dans les pharmacies notamment.
Eh bien oui, ça contient des répulsifs de synthèse, donc effectivement, ça peut être efficace. Alors on ne sait pas très bien effectivement pourquoi certaines peaux attirent les moustiques. C'est une question d'odeur. On sait par exemple qu'effectivement, les moustiques raffolent du dioxyde de carbone qui est émis par certaines peaux. Alors après, savoir pourquoi certaines peaux en émettent et pas d'autres, on n'en est pas là. Mais en tout cas, on peut se rincer souvent la peau à l'eau, justement, pour éviter de dégager cette odeur qui est discrète, mais qui est très puissante pour les moustiques.
Et ne pas se parfumer, je crois.
Ne pas se parfumer. D'abord, en été, en plus, il y a le soleil. Donc, de toute façon, il faut éviter. Il y a la chaleur de la peau aussi qui est importante. Donc, il faut éviter d'avoir trop chaud, hein, si possible.
Alors, si possible.
Si possible, ce n'est pas toujours possible. Et les vêtements longs et couvrants, c'est important, là aussi, pour diminuer les piqûres. Et puis, un dernier point, puisqu'on parlait des bracelets anti-moustiques, quand on les utilise, il faut les mettre aux deux poignets, aux deux chevilles. Donc, vous voyez, il en faut quatre.
Ah oui, d'accord.
Et puis, c'est inutile, bien sûr, en tout cas, sous les tropiques. Ce n'est pas ça qui va vous protéger d'une piqûre de moustique susceptible de transmettre le paludisme,
oui,
évidemment.
Là, il faut passer aux produits un petit peu plus efficaces. Alors maintenant, si on est piqué et qu'on a des démangeaisons, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, bon, il faut éviter de gratter vigoureusement. Par contre, effectivement, avec la paume de la main, on peut frotter un petit peu pour soulager. Si vous avez du froid, c'est très bien aussi. Des glaçons, pas en contact direct avec la peau. Les pharmacies, bien sûr, peuvent vous conseiller parce qu'il y a des produits à base de corticoïdes locaux, pas avant 6 ans, ou d'antihistaminiques, pas avant 3 ans. Ça peut soulager. Donc, renseignez-vous auprès de votre votre pharmacien.
Alors, un peu plus douloureux que les piqûres de moustiques, les piqûres de guêpes, d'abeilles ou de bourdons, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, comme le rappelle le docteur Jimmy Mohamed, dans son livre « En attendant le docteur », il faut lutter contre son premier réflexe qui est de frotter la zone piquée. Parce que s'il y a un dard, notamment si c'est une abeille ou un bourdon, évidemment, il faut enlever le dard délicatement, ça veut dire avec les ongles ou une pince à épiler, sans appuyer sur la poche, sinon vous allez injecter le venin, puisqu'ils perdent leur poche de venin quand ils vous piquent. Ensuite, un incontournable des trousses à pharmacie de vacances, c'est les kits d'aspiration de venin. Donc ça va non seulement réduire la réaction locale, mais ça va soulager. Donc il faut le faire une fois qu'on a...
Ça, vous le conseillez.
Ça, on peut le faire, bien sûr. Ça, il faut enlever le dard avant, si c'est un dard. Et puis, comme c'est thermolabile, ces venins, ça veut dire que c'est susceptible de réagir au choc thermique. Donc après de la chaleur, la chaleur, c'est le bout d'une cigarette, sans brûler la peau. Ça peut être un sèche-cheveux, si vous en avez un. Même l'eau chaude, vous trempez dans de l'eau très chaude pendant 10-15 minutes, sans brûler, attention. Et puis ensuite, derrière, vous mettez du froid, vous créez un choc thermique. Ça évite notamment les réactions grave. Quand la réaction est très grave, si c'est une piqûre à la gorge, si c'est à la bouche, si la personne a du mal à respirer ou la langue gonflée, c'est une réaction généralisée, la peau a des plaques, on fait le 15, on n'hésite pas parce qu'effectivement, il peut y avoir une réaction allergique grave. Et si vous êtes allergique aux piqûres d'hyménoptères, vous avez toujours votre kit d'auto-injection d'adrénaline.
Merci beaucoup Damien Mascret.
Europe 1.
À suivre dans cette émission, le dossier du jour consacré à ces héros du quotidien que sont les aidants. Ils sont 11 millions en France. Leur rôle a été essentiel pendant la crise du coronavirus et ce n'est pas facile pour eux de prendre des vacances ou même quelques jours de répit aujourd'hui. Nous allons évoquer des pistes pour les soutenir et des initiatives encourageantes. On se retrouve dans un instant.
Europe 1. Sans rendez-vous. Anne Le Gall.
Vous écoutez Sans rendez-vous, nous sommes ensemble jusqu'à 16h. À mes côtés dans ce studio, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Et notre invité du jour avec qui nous allons parler des aidants. Bonjour Claudie Culac.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de la Compagnie des aidants, une plateforme d'aide et de services pour les particuliers. Alors on le disait tout à l'heure, 11 millions d'aidants, beaucoup ont œuvré pendant le confinement. Alors ces aidants, le rôle d'aidant, on le tient en moyenne, d'après les statistiques, pendant 4 ans et demi, 45% des aidants continuent de travailler en même temps et ces aidants sont à 60% de risque supplémentaire de contracter une maladie liée au stress ou au surmenage. Alors, on va parler de cette situation, mais d'abord, un mot sur votre parcours personnel, Claudie Culac. Vous-même, avant de fonder la Compagnie des aidants, vous avez été aidante pour votre tante et pour votre père.
Tout à fait. Je me suis occupée pendant des années d'une tante qui était âgée et handicapée et mon père était atteint de la maladie d'Alzheimer et pour lui, donc, j'ai été sa tutrice.
Mmh. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ? C'était de jongler avec la vie professionnelle ? C'était les démarches administratives ? Faire face aux dépenses financières au quotidien ?
Le plus dur pour moi, ça a été d'être très intrusive dans la vie de mes proches. C'est-à-dire que quand vous vous occupez d'un parent âgé, vous devez connaître un maximum de choses sur sa vie. C'est-à-dire, quelle est sa pension de retraite ? Est-ce qu'il a une assurance vie ? Est-ce qu'il est propriétaire ou pas ? Ça, en général, vous le savez. Mais en tous les cas, de quelles ressources il dispose pour pouvoir gérer au mieux son autonomie à domicile. Pour moi, ça a été le plus dur, quoi. Être intrusive dans leur vie. Alors d'abord avec ma tante, parce que très rapidement, elle m'a dit, Claudie... vous occupez de mes papiers, d'accord, ok. J'ai dit, oui. Et papa, parce que j'ai été sa tutrice.
Alors, vous avez fondé la Compagnie des aidants. C'est cette histoire personnelle qui vous
Exactement.
Y a poussé ?
Exactement. Oui, en fait, ça a été très drôle parce que je rencontrais tellement de difficultés que je vais voir Monique, qui était la responsable de notre agence de service à la personne. Et je lui dis, Monique, j'en peux plus, je suis crevée. Ça ne va plus du tout. Elle me dit, bienvenue chez les aidants. Je lui dis, c'est quoi ce truc ? Elle me dit, on organise un focus group, est-ce que vous voulez y participer ? Je me retrouve à ce focus group avec que des femmes qui me racontaient ma propre vie. Et j'ai dit, là, ça ne va pas, il faut faire quelque chose.
Et donc, il y a ce site aujourd'hui qui donne donc des tas de conseils pratiques. Qu'est-ce qu'on y trouve ?
Alors, on y trouve d'abord un réseau d'entraide entre aidants parce qu'on s'est rendu compte que c'est en moyenne 226 km qui séparent l'aidant de son proche. Donc, l'idée, c'est de taper un code postal et d'être mis en relation avec d'autres aidants qui peuvent vous dire, sur ce territoire-là, moi, je connais un tel, j'ai mis ça en place, il existe telle structure, etc. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, on a... un annuaire des bénévoles pour un coup de main. On a une bourse d'échange de matériel d'occasion et une plateforme de formation en ligne.
D'accord. Damien ?
Oui, vous avez dit que vous avez rencontré des femmes. Ça veut dire que c'est plus souvent les femmes que les hommes qui sont aidants ?
Alors même si de plus en plus le chiffre s'amenuise entre hommes et femmes, le collectif Je t'aide, que je préside, chaque année publie un plaidoyer. Et dans un des derniers plaidoyers qui était sur le thème de la précarité, on s'est rendu compte que quand ça devenait vraiment compliqué, c'est 64% de femmes. Voyez, donc je pense que c'est important de voir cet aspect-là. Quand ça va, voilà, le couple s'organise. Mmh. Mais dès que ça commence à devenir compliqué, c'est en général la femme qui s'arrête de bosser et c'est elle qui s'occupe vraiment à fond du problème.
Les proches des malades à domicile ont été très sollicités là, pendant le confinement. Vous avez eu des demandes particulières pendant cette période ?
Alors, nous, ce qu'on a vu surtout, c'est que des familles ont dû récupérer leurs parents pour faire de la place à l'hôpital parce qu'il fallait des chambres. Et donc, les familles ont joué leur rôle, ont accueilli leurs parents à domicile pour permettre justement aux services de fonctionner dans les meilleures conditions. S'ils n'avaient pas été là, ça ne se serait pas passé comme ça s'est passé aujourd'hui. On aurait vécu une crise sanitaire encore plus importante.
Donc c'est vraiment l'armée de l'ombre, entre guillemets. Ils ont joué un rôle essentiel.
Et un rôle indispensable, essentiel, et j'espère que tout le monde va s'en rappeler.
Damien Mascret ?
Oui, c'est vrai que les services font souvent effectivement appel, mais même en dehors de ces situations exceptionnelles, de toute façon, la société entière se repose sur les aidants sans toujours la reconnaissance qui va avec.
Vous avez entièrement raison. Parce que s'il y a un problème d'aidant, c'est qu'il n'y a pas assez d'accompagnement des aidés. Donc si on gérait mieux la fragilité dans notre pays, on ne serait pas obligé aujourd'hui de trouver des mesures pour soutenir les aidants. D'accord ? Donc par exemple, s'il y avait une meilleure coordination entre ville et hôpital, c'est-à-dire par exemple, voilà, vous savez que ce proche âgé doit sortir de l'hôpital, il y a quelqu'un au sein de l'hôpital qui va faire le pont entre l'hôpital et la ville pour que cette personne fragilisée rentre chez elle, que le frigidaire soit plein, qu'il y ait une aide à domicile qui passe, que l'infirmière puisse passer et que tout aille bien pour son retour à domicile et que ce ne soit pas la famille qui parfois est très éloignée qui soit obligée de passer toute sa journée à téléphoner et à prendre du coup un congé ou à le faire entre midi et deux pendant ces heures de pause.
On développe de plus en plus l'hospitalisation à domicile avec tout ce que ça suppose de matériel, d'accompagnement, d'auxiliaires qui passent régulièrement. Est-ce que c'est forcément une bonne chose ?
C'est une bonne chose pour notre proche, ça c'est sûr. Parce que quand on voit la qualité des plateaux repas à l'hôpital, je pense que c'est mieux que le proche rentre à domicile, chez lui, au calme, où il a ses affaires, où il est bien. Après, si cette solution doit reposer essentiellement sur les épaules des aidants. Moi, je ne suis pas d'accord, pas question. Je veux dire, il faut comprendre...
Il faut que le statut soit reconnu.
Il faut comprendre que les aidants, à 62%, vous l'avez dit, sont des actifs. Et comment concilier sa vie professionnelle et son rôle d'aidant, c'est parfois très compliqué. Donc, c'est là où on a besoin qu'il y ait, en fait, de nouveaux métiers qui soient créés pour soutenir cette fragilité. Et si vous me permettez, tout à l'heure, vous avez dit en moyenne, c'est 4 ans et demi qu'on est aidant. Je voudrais préciser, quand on a un proche âgé, quand on est parent d'un enfant en situation de handicap, c'est toute la vie. Ou quand on est maman d'un enfant qui a une maladie rare ou qui a un cancer, ça peut durer des décennies. Donc vous voyez à quel point c'est injuste et que notre devoir est de soutenir les familles qui rencontrent ces problèmes dans leur vie.
Damien Mascret.
Oui, vous avez souligné tout à l'heure le fait que c'est compliqué de devenir intrusif dans la vie de ses parents ou d'autres personnes. Il y a aussi l'aspect psychologique, effectivement, parce que finalement, un aidant ne devrait pas être soignant. Il l'est de fait trop souvent, sans doute, mais les rôles ne devraient pas être mélangés. Pourtant, comment on peut faire, effectivement, pour essayer de séparer ça quand on est aidant ? Ça ne doit pas être simple.
Mais c'est très compliqué, d'ailleurs. Si les plans à pas étaient plus fournis, on n'aurait pas 80% des aidants qui sont des co-soignants aujourd'hui. Parce que, si vous voulez, entre le passage de l'aide à domicile une fois par jour pour certains qui n'ont pas les moyens que cette aide à domicile passe 3 fois dans la journée, qui fait le change ? C'est l'aidant, sans avoir appris à le faire. Et ce qui a été incroyable et révélateur, c'est que nous, on a une plateforme de formation en ligne. On a vu plus 50% d'utilisation, c'est-à-dire 180 personnes en 2 mois qui se sont inscrites à notre formation en ligne. Eh bien oui,
alors, quand vous récupérez... On peut la décrire cette formation, donc il y a des vidéos, en fait vous expliquez comment prendre en charge en fait, une personne à domicile.
En fait, on a des vidéos, gestes et postures qui expliquent comment on utilise un lève-personne, comment on fait... comment on aide au transfert du lit au fauteuil, comment on change les draps d'un lit occupé, etc. On en a 22. Et donc, du coup, je pense à une famille comme ça qui a récupéré son parent amputé des deux jambes, diabétique. Okay, et on lui dit, ben voilà, il faut récupérer votre parent. Vous faites comment ? Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de faire un transfert d'une personne qui est un corps mort, inerte.
On reste ensemble, Claudie Cullac. Nous allons poursuivre cet échange dans un instant. Comment lutter contre la fatigue et l'isolement des aidants? Quelles sont les solutions de répit qui existent? Dans quelques minutes, nous serons également en ligne avec le docteur Hélène Rossino pour en parler. À tout de suite.
Sans rendez-vous,
15h, 16h sur Europe 1.
Anne Le Gall.
Sans rendez-vous, c'est votre émission Bien-être et Santé sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h et nous évoquons aujourd'hui ces héros du quotidien, ces 11 millions d'aidants qui en France ont un rôle essentiel mais parfois oublié. Pour en parler, nous sommes en studio avec le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro, avec notre invitée du jour, Claudie Cullac, fondatrice de la Compagnie des aidants, une plateforme d'aide et de services pour les particuliers. Et le docteur Hélène Rossino vient également de nous rejoindre en ligne. Bonjour Hélène Rossino.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin en santé publique et vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Aidants, ces invisibles » aux éditions de l'Observatoire. Alors vous avez écrit récemment, je vous cite, « Le monde du domicile a été abandonné à son sort pendant le confinement ». Vous avez recueilli des témoignages d'aidants, de soignants qui se sont vraiment sentis inexistants, invisibles, négligés. Racontez-nous.
Alors tout à fait, c'est vrai que j'ai commencé par recevoir beaucoup de témoignages via les réseaux sociaux pendant la période du Covid. Mmh. D'abord des dents qui me disaient leur détresse. Alors certains ont arrêté d'eux-mêmes les soins à domicile par peur que leurs proches soient contaminés par un soignant, parce que les soignants du domicile étaient très très loin d'être prioritaires pour les protections, pour les masques, pour les surblouses. D'autres ont continué mais ont dû... ont vu arrêter les soins parce que les intervenantes ne pouvaient plus venir, parce qu'il fallait faire garder leurs enfants, parce qu'elles étaient elles-mêmes vulnérables. Il y avait beaucoup de raisons pour arrêter ces soins. Donc on a des aidants qui ont récupéré, comme Claudie l'a dit tout à l'heure, le parent et ont dû s'en occuper. Mais c'est vrai que ça m'a poussée à discuter justement avec ces soignants et avec ces intervenants du médico-social. Et ce constat, ce sentiment d'abandon était extrêmement répandu. Une infirmière m'a confié qu'elle ne se sentait même plus de la même famille que les soignants hospitaliers. Et moi, je dois dire que ça m'a fait très mal au cœur d'entendre ça.
Damien
J'ai vu, enfin, en tout cas dans tous les témoignages, une vraie brèche entre cet hôpital qu'on a dû renforcer en urgence, un peu comme un château fort, parce que l'urgence était les lits de réanimation étaient d'accueillir les patients, et de l'autre côté, les hôpitaux de jour qui ont fermé, les soignants qui ont été réquisitionnés, et un monde du domicile qui a, été laissé complètement à l'abandon.
Damien Mascret.
Oui, dans votre livre, vous dites aussi, et j'en parlais à l'instant, que les aidants sont la colonne vertébrale invisible de notre système de santé. Est-ce que, pour autant, ça n'est pas un peu plus visible aujourd'hui qu'hier ?
Eh bien, j'aurais pu vous répondre que c'était un petit peu plus visible en octobre dernier ou en novembre dernier, quand le plan aidant a été annoncé. Mais il nous avait été annoncé que les aidants seraient une priorité et qu'on devait absolument les reconnaître. Allez, 6 mois plus tard, pas une seule fois, j'ai entendu prononcer le mot aidant dans la bouche du président de la République ou du Premier ministre. Je les ai entendus s'interroger pendant une bonne dizaine de minutes sur l'intérêt ou pas d'aller faire du jogging à Paris pendant le confinement. Mais par contre, pas un seul mot sur ni les aidants, ni les proches en général, ou même ni les professionnels du médico-social, ni les professionnels du monde du handicap. Personne. Donc je dois dire que malheureusement, l'espoir qui était né ces derniers mois a bien montré qu'en cas d'urgence, les belles paroles ne sont pas forcément suivies d'actes.
Claudie Cullac, il y a sur votre site une possibilité de faire une demande de soutien psychologique, notamment par téléphone. C'est un outil important.
Ah oui, on a eu énormément de personnes qu'on a pris en charge. Et ce qui a été étonnant, c'est qu'on a eu beaucoup de mails qui sont arrivés. Parce qu'effectivement, quand vous êtes confiné, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'utiliser une adresse mail que d'utiliser un téléphone.
Parce que c'est plus discret.
C'est plus discret, parce que du coup, vous pouvez vous confier facilement. Donc on a eu énormément de mails. Et puis nous, on a mis en place un numéro vert qui est porté par Espace Singulier, qui est une des structures du collectif Je t'aide.
Mmh. Donc ça, ce sont des choses qui fonctionnent toujours aujourd'hui.
Ah oui, des choses très concrètes, parce que nous, on est concrets.
Mmh. Damien ?
Oui, docteur Rossino, pourquoi c'est important de rompre l'isolement et de penser à soi quand on est aidant ?
Alors, parce que malheureusement, les aidants sont beaucoup plus à risque de problèmes de santé, à la fois physique et mental, et que l'isolement est un gros facteur de risque de problèmes de santé mentale. On sait que les aidants ont souvent des douleurs, sont plus sujets aux infections, et ont souvent malheureusement honte, sont en colère, se sentent coupables, sont épuisés. Et plus on s'isole, moins on a d'aide. Moins on peut prendre de pause, moins on peut partager ce qu'on traverse, et plus on se renferme sur soi, c'est un cercle vicieux, et plus on est à risque, justement.
Claudie Culac.
Oui, 20% des aidants repoussent, voire renoncent à leurs soins. C'est-à-dire, je peux vous donner un exemple comme ça, d'une dame qui a un cancer du pancréas, qui ne va pas se faire opérer parce que son mari a une maladie neurodégénérative et qu'elle ne veut pas le laisser tout seul, et elle va en mourir.
Et Claudie Culac, il existe désormais un droit au répit pour les personnes qui sont très investies auprès d'un proche. Donc l'aidant peut toucher une aide financière pour souffler un peu. Comment on fait pour déposer un dossier ?
Alors on dépose un dossier au conseil départemental dont le proche dépend, dans le cadre de l'APA. Mmh. Il y a effectivement une enveloppe budgétaire pour financer en partie le répit. Mais vous savez, il y a plein de choses, c'est-à-dire on voit le répit souvent sur la durée, mais le répit ça peut être aussi quelques heures par semaine où le proche va en accueil de jour, c'est très bien. Ça permet justement de garder du lien social, ça permet à l'aidant de se reposer ou de faire autre chose de sa vie.
Et quelqu'un qui aurait envie aujourd'hui là, de prendre quelques jours au cours de l'été, qu'est-ce qu'il peut faire ?
Alors, il y a le baluchonnage.
Alors expliquez-nous.
Alors le baluchonnage, ça nous
vient... C'est canadien ça, non ?
Oui, ça nous vient du Canada. On a lutté pour que ça existe en France, c'est expérimental aujourd'hui en France, parce que le droit du travail interdisait aux salariés de travailler plus de 13 heures d'affilée, et donc on a réussi à lever ça, ce qui veut dire que vous avez une professionnelle qui vient au domicile, l'aidant s'absente et peut s'absenter durant 3 jours, et cette relayeuse prend la place de l'aidant. Connaît les petites habitudes de l'aidé, ce qu'il aime, par exemple, ce qu'il aime manger, quel feuilleton il va vouloir regarder à la télé, etc. Et du coup, ça permet à l'aidant de prendre du temps, peut-être de s'occuper de sa santé, d'aller voir sa famille. C'est génial, nous on adore.
C'est une aide à domicile pendant 3 jours, en
fait. Exactement, c'est des vrais professionnels. Si vous voulez, c'est pour combattre aussi le travail au noir. Parce que vous avez beaucoup de femmes comme ça qui travaillaient au noir pour les familles, et ça, c'est pas bon du tout.
Damien ?
Oui, est-ce que là aussi les aidants se tournent vers les autres ? Sous-entendu, est-ce qu'on peut demander à des amis, à des proches de nous aider ? Ou est-ce que, parce qu'on n'y pense peut-être pas spontanément, comme on ne sait pas exactement quelle est la situation au domicile.
Alors, on aimerait bien, mais souvent les amis s'en vont à ce moment-là.
Ah oui, c'est vrai.
mais vous faites compliqué, vous savez.
Vous faites de la mise en contact, vous,
oui,
entre aidants sur votre site aussi ?
Oui, entre aidants, parce que justement, les aidants qui sont passés par là connaissent le problème et peuvent... Ils se renseignent, ils ne vont pas échanger leurs proches, d'accord ? Mais au moins, ils vont se donner des bons tuyaux. Et surtout, de connaître, de bénéficier de l'expérience des autres va diminuer ce sentiment de culpabilité qu'on voit à 74% chez les aidants. C'est énorme. Vous verriez, il y a des familles qui sont extraordinaires, ils vous disent « je n'ai pas fait assez ».
On va poursuivre cette discussion dans un instant avec vous, Claudie Culac et docteur Hélène Rossino. Qui sont les jeunes aidants ? Comment concilier l'école et le soutien d'un parent malade ? Combien sont-ils ces jeunes aidants et comment les soutenir ? On en parle dans un instant.
Europe 1, Anne Le Gall.
Vous écoutez Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être, et nous parlons aujourd'hui du rôle des aidants. Nous sommes avec nos deux invités, le docteur Hélène Rossino, médecin de santé publique, et Claudie Culac, fondatrice de la Compagnie des aidants, une plateforme d'aide et de services pour les particuliers. Damien Mascret est toujours avec nous, médecin et journaliste au Figaro. Alors on va parler maintenant des jeunes aidants, donc ceux qui sont écoliers, collégiens, lycéens, et qui s'occupent d'un proche malade ou handicapé. Alors au quotidien, ça veut dire du soutien moral, des courses, du ménage, parfois l'aide aux devoirs pour les frères et sœurs qui sont un peu plus jeunes. Ils sont combien en France dans ce cas-là, Hélène Rossino ?
Alors, on est très embêtés pour les chiffres, hein, parce que les dernières estimations qu'on a datent d'il y a plus de 10 ans et elles les estimaient seulement à 500 000. Mais si on regarde les pays qui nous correspondent, si on fait une estimation, pour moi, on est plus proche de 1,5 million. Sincèrement, si on applique les pourcentages qui sont valables dans d'autres pays ou systèmes proches du nôtre.
C'est complètement fou comme chiffre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut être vigilant déjà par rapport à ces familles?
Il faut déjà, c'est bien qu'on en parle aujourd'hui, merci Anne Le Gall, parce qu'il faut déjà savoir qu'ils existent. Ça paraît tout bête, mais on ne peut rien faire pour eux si on ne sait pas qu'ils existent. Et c'est en particulier valable pour les professionnels de santé, pour les professionnels de l'enseignement, parce que si nous, on ne les connaît pas, et ben on ne peut pas les aider, on ne peut pas les repérer, on ne peut pas les diriger vers des professionnels compétents. Et c'est quelque chose qui manque pour moi, à la fois dans notre profession à nous, médecins, infirmières, aides-soignantes, et dans la formation des enseignants. C'est cette façon de connaître ces jeunes aidants, de les repérer, de savoir parfois s'adapter, leur parler, annoncer un diagnostic un peu différemment. Quand j'entends un jeune aidant qui me raconte qu'il était dans la pièce quand il a appris qu'on allait passer sa maman en soins palliatifs, mais que le médecin ne lui a pas adressé la parole et qu'on ne lui a pas expliqué ce que ça voulait dire et qu'il a regardé derrière sur Google ce que signifiait soins palliatifs et que c'est comme ça qu'il a compris ce qui se passait avec sa maman, ben je suis désolée, je trouve ça intolérable. On a besoin d'apprendre à les connaître pour arrêter de les ignorer et vraiment faire avancer les choses auprès d'eux. Parce que, sincèrement, c'est une honte aujourd'hui.
Damien Mascret ?
Oui, c'est vrai que très souvent, on ne pense pas aux enfants et on ne pense pas que, comme ils vont être de toute façon aidants et ont besoin d'informations, ne serait-ce que pour soulager leur angoisse d'ailleurs, il faut évidemment les informer, même s'ils sont plus jeunes que les parents. Et côté professeur, oui, j'aimerais bien avoir votre avis, parce que c'est vrai que les professeurs ne veulent pas être trop intrusifs non plus, et l'enfant n'en parle pas forcément au professeur quand il rentre à la maison. On peut croire qu'il va sur sa Game Boy ou sa télé, mais en fait, il peut très bien être en train d'aider un parent ou s'occuper du ménage ou des autres enfants. Comment on peut faire quand on est enseignant?
Alors, c'est vrai que c'est pour ça que j'apprécie particulièrement le travail de l'association JAD, Jeunes Aidants Ensemble, qui a mis en place des ateliers cinéma répit, qui sont des sortes de colonies d'une semaine où les jeunes aidants peuvent partir ensemble et encadrer. Mais justement, se reconnaître, partir avec leur père et être avec un groupe de jeunes avec qui ils peuvent vivre, discuter de ce qu'ils vivent au quotidien. Parce que les enfants, on le sait très bien, sont quand même assez méchants les uns avec les autres, surtout quand ils ne connaissent pas bien les situations. Et on a besoin de pouvoir parfois vider son sac quand on est un enfant. Et on n'osera pas forcément le dire à ses parents, en particulier si eux sont concernés directement. Si le parent est malade, ça va être très difficile pour un enfant d'aller lui dire « Papa, maman, je souffre de la situation » parce que l'enfant va avoir peur que le parent se sente coupable. Donc c'est vrai que de pouvoir mettre en relation ses enfants les uns avec les autres, en même temps qu'on les met en relation avec des professionnels qui vont les informer, les déculpabiliser et les soutenir, c'est très important. Donc, former les professeurs et surtout les mettre en lien avec ces professionnels spécialisés des jeunes aidants.
Alors, le site de l'association JAD, c'est jeunes au pluriel, jeunes-aidants.com. Claudie Culac, les trois quarts de ces jeunes aidants se disent fatigués. Statistique qui date d'avant la crise sanitaire. On imagine que ça n'a pas arrangé les choses. Quelles sont les structures qui existent pour eux et qu'est-ce qu'on peut leur proposer ?
Ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas? On voit heureusement qu'il existe
des associations.
L'association JAD est vraiment... j'invite ces jeunes aidants à se rapprocher de l'association parce que c'est vrai qu'il n'existe pas grand-chose. Et moi, je voudrais rajouter aux exemples donnés par Hélène un exemple de parents, par exemple, qui ont un enfant diagnostiqué. Ils vont mettre toute leur énergie sur cet enfant malade et... Ils nous disent, je ne veux juger personne surtout, ils nous disent que souvent, les autres enfants se débrouillent un peu seuls. Et je trouve que là, quand le corps médical se rend compte de cette situation, c'est-à-dire prend en charge à ce moment-là le patient dans son écosystème, c'est-à-dire dans sa famille, 360 degrés, qu'il découvre qu'il y a des enfants qui sont des frères et des sœurs, il faut à ce moment-là aussi soutenir la famille et soutenir ses enfants qui, on le sait, vont par exemple choisir des filières qui sont plus courtes que s'ils n'avaient pas eu de frères et sœurs malades ou en situation de handicap.
À la maison. Damien Mascret.
Oui, alors, concernant justement le soutien aux aidants, on va quand même terminer sur une note positive.
Absolument.
Parce que c'est vrai que le tableau n'est pas très glorieux pour la France, avec ce qu'on vient d'entendre. Mais il y a quand même des initiatives qui méritent en tout cas un peu de publicité, comme ce qui s'est passé à La Réunion pendant le confinement, Hélène Rossineau.
Alors effectivement, à La Réunion, il y a un groupement d'intérêt public que mène l'ARS, le CHU, le département et la région, si je me souviens bien, et qui s'est complètement adapté. Alors, ils prennent déjà en charge les aidants au quotidien depuis 2010-2012. Ils avaient déjà mis en place aussi un numéro d'appel. Il propose un système de bourse d'heures de répit que je trouve très bien. Et pendant le confinement, ils ont entièrement digitalisé leur accompagnement. Ils ne se sont pas arrêtés du tout. Ils ont accompagné les aidants dans la prise en main d'outils digitaux pour faire des visioconférences, par exemple, ce qui n'était pas forcément évident pour tout le monde. Et ils ont, à travers ce moyen-là, mis en place chaque semaine des matinées santé avec des professionnels de santé pour pouvoir échanger, que les aidants puissent échanger sur le thème de la santé et poser leurs questions, des matinées de soutien psychologique, des matinées avec de la sophrologie, de la réflexologie, de la relaxation, des groupes de parole. Et ça a très bien fonctionné. Et je dois dire que quand on voit que la grande majorité des départements ont été complètement à l'arrêt sur la question des aidants,
il y a un exemple à suivre à La Réunion.
Qu'il y a un vrai exemple à suivre et qui en plus est en Outre-mer et on parle quand même très très peu de l'Outre-mer déjà de règle générale. Donc reconnaître un petit peu leur travail, je trouve que c'est important.
Merci beaucoup à vous deux, Claudie Culac et le docteur Hélène Rossineau, de nous avoir éclairés. On rappelle aussi le site de la Compagnie des aidants. Claudie Culac, vous avez une caravane des aidants qui va bientôt partir sur la route. Expliquez-nous en quelques instants,
donc,
quelques secondes.
Donc, à partir de fin août jusqu'à première semaine de novembre, donc vous voyez, tout septembre, tout octobre, nous serons sur la route avec notre caravane Tous Aidants. Vous pouvez voir le programme sur notre site www.lacompagniedesaidants.org. Et on fait le tour de France, en fait. On va au-devant des aidants pour leur apporter des informations, les écouter, les orienter avec nos assistantes sociales.
Merci Claudie Culac, merci beaucoup pour ces initiatives positives.
Europe 1.
Votre émission Santé sans rendez-vous continue dans un instant avec des conseils pour se tonifier et bouger à tout âge pendant l'été et la chronique sexo de Damien Mascret. À tout de suite.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Anne Le Gall.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est jusqu'à 16h et nous sommes toujours en compagnie du docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Et comme il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes habitudes, tous les jours, vers 15h45, nous parlons de psychologie et des petites routines qui peuvent nous aider à changer et à améliorer notre bien-être au quotidien. Tous les jours, un expert nous donne ses pistes, ses secrets, ses astuces pour nous améliorer. Et aujourd'hui, c'est une coach sportive qui est avec nous. Bonjour Véronique de Villèle.
Mais bonjour Anne, bonjour tout le monde.
Merci beaucoup.
Je suis ravie d'être avec vous.
Eh bien, on est ravis de vous avoir en direct. On vous connaît comme ancienne présentatrice de Gym Tonic avec Davina Delors et vous donnez aussi des cours de Silver Gym au Cercle de la Forme. Alors aujourd'hui, voilà, c'est vous qui allez nous aider à améliorer nos habitudes quotidiennes, notamment en faisant de l'activité physique. Si on vous demande trois idées d'exercice pour se tonifier cet été, vous nous dites quoi, Véronique ?
Alors, je vous dis, et pardon pour les gens qui me connaissent bien, ils vont dire qu'elle se répète et elle n'a pas trop d'idées. Alors, j'en ai beaucoup d'idées.
Mais
il y a
un exercice
qui est tellement, tellement efficace et génial que je vais vous le donner pour les auditeurs. C'est de prendre d'abord de se munir. Alors, peut-être qu'en nous écoutant tout de suite, ils ne les ont pas, mais vous allez faire semblant de l'avoir dans la main. C'est des bouteilles d'eau. Alors, pour les plus jeunes, vous prenez deux bouteilles d'eau, un litre et demi, la fameuse bouteille dont on ne citera pas le nom, mais qu'on tient facilement dans la main, qui est un peu rétrécie au milieu, parce que c'est plus facile. Une bouteille dans chaque main, vous vous mettez... Alors ça, c'est pour les personnes plus alertes. Et puis, si on avance un peu en âge, eh bien, on prend une bouteille d'un litre, voire encore même une plus petite. On est debout, on a les jambes tendues et on a les bouteilles dans chaque main, les bouteilles le long du corps. On est d'accord ?
D'accord, bras tendus.
voilà, bras tendus. On ferme bien ses jambes qu'on colle aux genoux et on commence à plier. Et l'idée, c'est d'aller déposer une bouteille sur le côté en faisant attention de ne pas laisser tomber l'épaule inverse. C'est-à-dire, votre bouteille est dans la main droite, c'est celle qu'on va aller déposer au sol. Votre épaule gauche doit bien rester derrière. Ça fait énormément travailler la taille.
Donc on se penche en avant, en fait. Pour...
Non, sur le côté.
Sur le côté.
Surtout pas en avant.
Ah oui, d'accord.
Et, non, Anne,
et on assouplit le côté,
bien
alors.
Sur le côté. On va déposer sa bouteille et on remonte sans bouteille. On va faire la même chose de l'autre côté. On part de l'autre côté, jambes pliées, on descend, on dépose sa bouteille. On remonte, jambes tendues, on tient bien le dos, on tient bien les fessiers. Et on repart chercher la bouteille de l'autre côté. Vous la remontez, même chose à gauche, même chose à droite. Si vous faites des petites séries de 8 ou 10 fois, je vous promets que vous allez m'en donner des nouvelles.
Et on aura une taille d'enfer.
À moi. Oh ben là, c'est juste magnifique. Donc, en fait, cet exercice, je l'adore. Et on peut le faire de deux façons différentes. On peut le faire debout et assis sur une chaise, quel que soit l'âge. Ça peut être fait par quelqu'un de très jeune ou de plus âgé. Et c'est un exercice qui est très, très, très efficace. Le système est le même. Les deux pieds bien à plat au sol, les deux jambes serrées, les deux genoux collés. Vous partez déposer une bouteille, vous remontez, vous étiez... On le sent dans la taille. Cet exercice, il est basique.
Alors y en ça, a c'est le premier exercice. Voilà. Il nous reste un peu plus de 3 minutes. Enfin, 3 minutes pour en faire 2 autres.
D'accord. Alors, Alors, le deuxième que je trouve formidable parce qu'on est en vacances, donc on parle à des gens qui sont dans l'eau, par exemple. Hein, on peut, j'espère, pour les gens qui ont une piscine, un lac, une rivière ou l'idéal, un bord de mer. Vous entrez dans l'eau jusqu'à à peu près à la taille. Sur des jambes tendues, vous étirez une jambe absolument comme si vous donniez un grand coup de pied dans l'eau. Mais il faut que votre pied sorte de l'eau. Et ça, c'est la difficulté et qui est fantastique pour le dessous des cuisses, les fessiers et le bas du ventre. Vous ramenez votre jambe, vous la reposez, vous faites une petite respiration, vos jambes sont tendues et là, vous donnez un grand coup de pied de l'autre jambe et le pied doit sortir de l'eau. Mais absolument. Alors, ça fait une éclaboussure, c'est ludique en plus, c'est amusant.
Et plus on va loin, plus c'est difficile.
Ah, ben là, c'est magnifique. Alors, à ce moment-là, il faut commencer à descendre jusqu'à la poitrine, après sous le menton. Alors, ça, là, on vient de dire qu'on le faisait les jambes tendues. On est d'accord? Eh bien, on fait la même chose. Vous descendez votre buste à la hauteur du menton, justement, mais là, vos jambes sont pliées. Donc, y a pas, en fait, il n'y a pas plus d'eau, puisque vous êtes pliées. Et vous lancez votre jambe de la même façon, très fort devant vous, avec le pied qui doit sortir, absolument sortir de l'eau. Absolument.
D'accord.
Et vous faites ça tour à tour et vous faites des séries. Et je vous promets qu'on a travaillé tout à l'heure avec la bouteille d'eau, la taille et le ventre. Et là, vous travaillez le ventre et surtout les cuisses et les fessiers.
D'accord.
Et tout ça, j'insiste, sans brutalité, aucune brutalité pour le dos. Le dos, il faut bien le tenir. Et moi, je spécialise des exercices qui font pas mal au dos. Enfin, c'est la réputation que j'ai à laquelle je tiens.
Et donc, on a un dernier attention. Exercice peut-être avec une chaise, je crois.
Oui, alors avec une... Non, je vous l'ai dit avec la chaise, parce qu'en fait, vous en
avez... Ah oui, c'est la bouteille et la chaise.
Voilà, mais c'est pas grave. Je vous en donne un petit dernier qui est très amusant à faire. On est dans l'eau, puisqu'on est en vacances, on est d'accord. Et ça, vous le faites tous les jours, les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Alors, c'est bon pour les garçons, ça leur fait travailler les pectoraux. Et les femmes, c'est juste génial pour les bras et la poitrine. On se met dans l'eau et là, cette fois-ci, on ouvre les jambes pour avoir une très bonne assise, parce que dans l'eau, ça bouge un peu, donc il faut tenir ses abdominaux. Vous croisez vos bras. Croisés, et quand ils sont bien croisés, vous les ouvrez un tout petit peu, et vous faites un moulinet avec vos deux mains. Alors ça, c'est plus compliqué à expliquer à la radio, mais je crois que c'est assez simple. Vous croisez les bras, une fois qu'ils sont croisés, vous les ouvrez un peu sur le côté, et vous passez un bras au-dessus de l'autre, un bras au-dessus de l'autre, vous tournez avec vos deux bras. Alors, évidemment, il y a la puissance de l'eau, donc c'est beaucoup plus difficile que si on le faisait maintenant, toutes les deux, dans le studio d'Europe 1. Vous voyez ce que je veux dire?
Absolument. On retient vos 3 idées. Merci beaucoup.
J'espère, parce qu'elles sont très efficaces. Vraiment,
on pensera à vous cet été. Merci Véronique de Villèle.
Quand vous aurez des courbatures, surtout. Merci à vous.
Merci Véronique de Villèle d'avoir été en direct avec nous.
Europe 1.
Votre émission Santé sans rendez-vous continue dans un instant avec la chronique sexo au programme Damien Mascret.
Eh bien, pourquoi être un couple fusionnel n'est pas forcément une bonne idée?
On va voir ça, à tout de suite.
Anne Le Gall sur Europe 1.
Vous écoutez Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être jusqu'à 16h. Et dans cette dernière séquence de l'émission, nous parlons intimité et vie affective avec vous, Damien Mascret. On rappelle que vous êtes médecin sexologue. Et aujourd'hui, vous vouliez nous parler de la bonne distance dans le couple, c'est ça?
Oui, parce que vous savez, il y a des couples fusionnels. D'ailleurs, la plupart des couples commencent par être fusionnels. Il y a cette phase pendant laquelle on se découvre.
Tout est beau.
Voilà, tout est beau d'ailleurs. Oui, on ne voit que les qualités. On idéalise d'ailleurs complètement l'autre. D'où d'ailleurs le conseil de ma grand-mère que je vous livre aujourd'hui.
On écoute.
Voilà, regarde, choisissez quelqu'un pour ses défauts parce que ses qualités, vous, vous en accommoderez toujours. Donc commencez par regarder les défauts, même
si
ça n'est pas...
C'est ce que vous avez fait.
Voilà, très visible au début parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors en réalité, c'est vrai qu'on dit parfois les contraires s'attirent, c'est vrai. Mm-hmm. Mais on dit aussi que qui se ressemble s'assemble. Et ça, on voit bien dans la longévité des couples que c'est un facteur important. Il vaut mieux être avec quelqu'un qui nous ressemble. Alors, qui nous ressemble, il y a beaucoup de caractères qui sont importants. Il y a le niveau socio-économique, figurez-vous. Il y a la culture aussi. Mm-hmm. Il y a également le rôle, en tout cas ce qu'on pense être le rôle des femmes et des hommes. Tout ça, ce sont des similarités qu'on recherche chez l'autre. C'est pour ça qu'au début, d'ailleurs, on a des discussions sans fin avec son partenaire. On se découvre. Et donc, on finit par fusionner, on finit par se rapprocher. Et puis ensuite, attention, il y a la phase qu'on appelle de défusion, c'est-à-dire de séparation. On retrouve finalement quelle est la bonne distance dans son couple. On se sépare finalement un petit peu, on reprend un peu son individualité. Et puis il y a deux problèmes qui peuvent surgir. Le premier, c'est que l'un des deux est encore dans la phase fusionnelle et voyant l'autre s'éloigner, a tendance à le poursuivre, ce qui accélère encore. Bah oui, on s'échappe encore plus, l'autre ne comprend pas pourquoi on l'empêche, on l'étouffe. Donc ça, c'est le syndrome du poursuivant poursuivi. Donc il faut veiller à laisser l'autre avoir un petit peu d'espace. Et puis l'autre danger, c'est de rester fusionnel, c'est-à-dire... On est proche, on partage tout, on partage les mêmes amis. Alors certes, on est en sécurité, on est rassurant, mais il y a un grand danger quand on est dans cette phase de fusionnel et qu'on y reste, c'est qu'on risque finalement de désérotiser complètement son partenaire ou sa partenaire.
Et alors, si on désérotise son partenaire ou sa partenaire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait?
Il se passe que, effectivement, si vous ne voulez pas perdre l'excitation et au contraire la retrouver, il va falloir recréer de la distance avec votre partenaire. On dit toujours que le désir naît effectivement dans l'espace entre les deux personnes et non pas
donc
quand ils sont collés.
Donc on vit sa vie collés. De son côté, alors, on a des activités différentes.
Exactement, il faut vivre un peu sa vie de son côté. On peut très bien avoir des amis différents. Au début, dans un couple, bien sûr, on se présente aux amis. D'ailleurs, on a la validation des amis, souvent. Mais ensuite, on peut avoir tendance à exclure certains amis, alors que vous pouvez très bien en avoir qui vous conviennent à vous et qui ne conviennent pas à votre partenaire. Et réciproquement, eh bien, rien n'empêche, en principe, de les voir séparément. Alors que le couple fusionnel, eh bien, il fait l'impasse dessus, il les sépare. Donc, revoyez des amis séparément, bien sûr, même s'ils ne plaisent pas aux autres. Puis, tolérez l'éloignement de votre partenaire. Il faut qu'il ait un petit peu de liberté. C'est comme ça qu'il retrouve son individualité. C'est comme ça qu'il redevient excitant, évidemment. Il faut enfin autoriser aussi ce qu'on appelle l'égoïsme dans l'érotisme, parce que les couples fusionnels...
L'égoïsme dans l'érotisme.
Mais oui, parce que les couples fusionnels, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ont tendance à ne pas vouloir blesser l'autre, surtout pas, donc on lui fait pas de proposition qui pourrait le heurter un petit peu. Bref, on en devient un petit peu ennuyeux, un petit peu monotone, en tout cas sur le plan des activités sexuelles. Donc il faut penser à soi, redevenir un petit peu égoïste, bref, retrouver un équilibre entre un peu moins d'intimité pour gagner un petit peu plus d'érotisme.
Tout est bien noté, Damien Mascret. Les meilleurs conseils pour votre bien-être et votre santé, on les partage tous les jours avec vous de 15h à 16h dans 100 rendez-vous sur Europe 1. Demain, le dossier du jour sera consacré à notre alimentation. Merci à vous, Damien Mascret. On se retrouve demain à 15h et en attendant, je vous laisse en compagnie de Philippe Gougler. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Vous nous emmenez où aujourd'hui?
Ah, dans le grand froid.
Ah,
le Groenland. Alors,
non,
à gauche.
Le Grand Nord.
Le Grand Nord canadien. Et avec des montagnes. On ne pense pas qu'il y a des montagnes à l'ouest du Canada qui montent jusqu'à près de 6000 mètres. C'est la cordillère américaine, avec des villages perdus, des lacs gelés, des immensités blanches. Et puis c'est aussi le pays de la ruée vers l'or. Donc on en parlera, c'est un très beau voyage. Et puis juste avant, en première heure, à partir de 16h, nous irons dans une petite région qu'on connaît mal, qui est une terre un peu à part, qui a longtemps été un lieu de refuge, une terre de légende. Ce sont les Cévennes.
On va rester avec vous, Philippe Gougler, et on vous retrouve dans un instant.
À tout de suite.